l'invité de la rédaction de Grand Sud FM.
Jusqu'au 31 janvier, c'est le dry January. Pour connaître le mode d'emploi de cette pause d'un mois avec l'alcool, je suis avec Jérôme Riffet, directeur de l'association Addiction France Aude, et Léa Murcia, animatrice. Vous présenterez ce défi ce jeudi de 18h à 19h30 à la Maison de la Prévention Santé de Narbonne. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Présentez-nous ce dry January.
Alors, Dry January, on l'appelle également Défi de janvier. C'est une initiative qui date de 2020 et qui a été reprise par un certain nombre d'acteurs de l'addictologie, dont la Fédération française d'addictologie, la Société française en alcoolologie, etc., pour sensibiliser la population générale à la notion de pause alcool pendant le mois de janvier, après les agapes de fin d'année, n'est-ce pas ? L'idée étant, de façon ludique et non moralisatrice, de sensibiliser les personnes de manière à voir comment ça se passe, à éventuellement recontrôler sa consommation et à bénéficier aussi d'un certain nombre de bienfaits pour la santé, puisqu'il est avéré que la pause d'alcool pendant un certain temps, même au bout d'une semaine, amène un certain nombre d'éléments positifs sur la santé physique et psychique.
Est-ce que c'est pas un peu étrange de s'abstenir pendant un mois avant de reprendre pour le restant de l'année des habitudes qui sont réputées nocives ?
Les habitudes nocives, oui, mais le fait de faire une pause justement pendant un mois permet de recaler une consommation qui sera peut-être plus appropriée. Et on observe que les gens réfléchissent à leur mode de consommation d'alcool et ça impacte donc positivement les mois à suivre. Ça ne veut pas dire pour autant que tout au long de l'année, ils poursuivront une consommation raisonnable. Mais néanmoins, le fait de se pencher un peu sur leur consommation pendant un mois, de mieux la contrôler, va avoir des effets positifs sur le reste de l'année. C'est-à-dire qu'en gros, ils ne vont pas, dès le 1er février, se remettre à consommer comme ils le faisaient avant. Il va y avoir des changements d'habitude justement dans leur mode de consommation d'alcool, dans leur relation aux produits alcool.
Et en quoi cette consommation d'alcool peut être un problème ?
C'est quand même un produit qui fait 40 000 morts par an à cause de l'alcool, sans parler des gens qui sont blessés lors d'accidents de la route, des violences conjugales, des violences sur la voie publique, etc. Et je pense qu'il s'agit bien là de prendre la mesure de la problématique alcool en termes de santé publique, en termes de société aussi, sans renier effectivement le produit alcool. Nous, on n'est pas une ligue anti-alcoolique, on essaie juste d'avoir un propos mesuré sur les risques engendrés par la consommation d'alcool, risques sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan de la santé, bien évidemment, et d'encourager les gens à prendre leur consommation en main, à ne pas en être victime. Vous savez, vous avez aussi des gens qui sont dépendants du produit alcool et qui, là, pour le coup, n'ont plus aucun contrôle de leur consommation. Donc, alors c'est qu'une faible partie de la population, mais la majorité des gens qui consomment de l'alcool n'ont pas de soucis, mais on a quand même un tiers qui sont des consommateurs excessifs, et il s'agit un peu de réaffirmer un certain nombre de normes de consommation et de les aider quand ils ne peuvent pas aussi diminuer ou arrêter seuls leur consommation. On dispose aussi de centres d'addictologie, de centres de soins qui permettent de les accompagner.
Est-ce une façon de s'interroger sur la place de l'alcool dans la société ?
En fait, ce qui se passe, c'est qu'en France, on constate que du fait qu'on soit un pays producteur d'alcool, on a tendance à hypervaloriser cette consommation-là. Elle fait partie de notre vie quotidienne, et elle accompagne notre gastronomie, elle accompagne tous les moments importants de notre vie, les événements. Donc il ne s'agit pas de renier ces aspects-là. Elle est quand même considérée souvent comme quelque chose de positif. On va parler d'un bon vivant. C'est en général un bon vivant, c'est quelqu'un qui mange bien mais qui boit bien aussi. Donc voilà, il faut revenir sur un certain nombre de caricatures un petit peu. Et puis dans la société aussi, on ne traite pas les personnes de la même manière, hein. C'est-à-dire qu'on je pense par exemple aux femmes qui sont en difficulté avec l'alcool, vous voyez, la société va avoir un regard beaucoup plus négatif sur la femme que sur l'homme, comme si, bon, l'homme, on lui passait un peu cette manie. Il ne s'agit pas véritablement d'une manie, mais voilà, on lui passait cette consommation-là, alors qu'avec la femme, on va être beaucoup moins tolérant. Donc là aussi, il y a une discrimination et qui a un impact aussi sur la prise en charge et l'accompagnement des femmes. On s'aperçoit que, d'une part, l'alcool étant beaucoup plus négatif sur le plan physiologique pour la femme, il va la dégrader plus rapidement. Et de par ce regard social un peu négatif, eh ben, les femmes vont rentrer plus tardivement dans le soin, et comme l'alcool dégrade leur santé plus rapidement, ben voilà, c'est un peu plus délétère pour elles, quoi.
Quelles sont les alternatives à l'alcool que vous préconisez ?
Alors justement, on propose aussi un atelier à la maison prévention santé sur les cocktails sans alcool, pour garder donc le plaisir de boire quelque chose autre que de l'eau ou du soda. On peut simplement aussi utiliser de l'eau ou du soda, ou partir sur des choses qu'on n'a pas l'habitude, justement, pour essayer un peu de changer ses habitudes par rapport à l'alcool.
Est-ce qu'il y a des alcools moins nocifs que d'autres ?
Malheureusement, non. Et non, puisqu'en fait, quand on parle d'alcool, il faudrait parler scientifiquement de la molécule qui s'appelle l'éthanol, et qui est présente aussi bien dans un verre de vin que dans un verre de whisky, que dans un verre d'apéritif anisé, etc. etc. Donc, c'est la même molécule, mais qui est dans un environnement aromatique, je dirais, différent. Mais c'est la même molécule qui nous fait dire que des verres d'alcool sont équivalents. On parle également d'unité standard d'alcool. Donc un verre de vin de 12 degrés à 10 centilitres est équivalent à un verre de whisky de 2,5 centilitres à 40 degrés, etc. Il y a une formule, hein, qui vient faire que ces verres sont tout à fait équivalents et contiennent environ 10 grammes d'alcool pur par verre. Donc voilà, qu'on boive deux verres de vin ou deux verres de whisky servis dans un bar, je précise, ou dans un restaurant, c'est la même chose.
Curieusement, on fait des campagnes à propos de la consommation d'alcool, mais on ne parle guère de la consommation de stupéfiants, qui pourtant est de plus en plus répandue et dont on connaît aussi les dangers. Qu'en pensez-vous ?
Alors, on n'en parle pas forcément de la même façon. C'est vrai que alcool-tabac, étant donné qu'ils sont légalisés, alors il y a quand même des règles, hein, mais on va en parler du côté santé, alors que les stupéfiants qui sont du coup interdits, on va plutôt en parler du côté répression, et donc les risques à consommer, etc. Et plutôt donc les risques que ça entraîne sur la vie quotidienne, moins que sur la santé.
Pour terminer cette interview, quelles sont les bonnes habitudes à prendre ?
Alors les bonnes habitudes, c'est peut-être de commencer par respecter les recommandations faites par l'OMS, qui sont donc de 10 doses standard maximum dans la semaine, avec une moyenne de 2 verres par jour et 2 jours d'abstinence pour justement essayer de ne pas prendre une habitude. Après, c'est aussi se fixer ses propres limites, essayer aussi d'avoir, comme le disait Jérôme, c'est aussi essayer d'être dans la réduction des risques. Si je consomme, je ne prends pas la voiture. Mettre en place tous ces petits gestes qu'on peut tous faire pour du coup essayer de réduire les risques autant sur la santé que sur mon environnement.
Et c'est peut-être aussi réfléchir au fait qu'on peut faire la fête, on peut avoir des moments de convivialité, des relations sociales, amicales, sans nécessairement avoir le produit alcool comme lien commun. Et justement, ce mois du défi de janvier encourage les gens non pas à rester chez eux, mais à sortir, à continuer à sortir, mais tout en ne consommant pas d'alcool, pour bien montrer aussi qu'on peut s'amuser, on peut continuer à avoir des relations sociales sans nécessairement consommer de l'alcool. Je pense que peut-être une évolution intéressante et importante sur l'évolution du comportement des personnes.
À la conférence présentation du défi de janvier, astuces et conseils sur les consommations régulières dans le cadre du Dry January est à retrouver ce jeudi de 18h à 19h30 à la Maison de la Prévention de Santé de Narbonne. Inscription au 04 68 49 70 55 et c'est en partenariat avec Grand Sud FM. Merci Jérôme Riffet.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes le directeur de l'association Addiction France Aude et également merci à vous Léa Murcia, animatrice.
Avec plaisir.
C'était l'invité de la rédaction de Grand Sud FM.